Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, philosophe, mathématicien et vous êtes l'auteur d'une œuvre novatrice et une cinquantaine d'ouvrages, notamment Le don de soi, Lecture biblique, De l'identité à l'existence, Le grand malentendu Islam-Israël-Occident. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre passionnant, très intéressant, Lecture laïque de la Torah, L'espace-temps d'une promesse. Est-ce que vous pourriez éclairer pour nous ce titre ?
Le titre « Lecture laïque » n'est pas du tout théorique ou prétentieux. Il signifie simplement que c'est une lecture de la Torah qui n'est pas dans le cadre religieux. C'est donc un livre qui est en dehors du cadre religieux, ce qui ne veut pas dire qu'il est anti-religieux. Moi, je dirais qu'il est a-religieux. Et qui exploite le potentiel du texte de la Torah, qui est d'être lisible par, en fait, n'importe qui s'intéresse un peu à la condition humaine, et qui peut lire des choses et qui, si on les dégage de l'étau, ou de la coque, de la coquille religieuse, qui est tout à fait honorable dans son espace et dans son champ, mais une fois qu'on les dégage, elles sont vraiment très parlantes et très soutenantes, je dirais, à une époque où on manque beaucoup de paroles solides, de paroles inspirées. Alors, qu'est-ce qui incite à cette lecture ? Eh bien, c'est que tout simplement, le personnage principal du livre, de la Torah, avant Moïse, c'est Yahvé. C'est le personnage qu'on traduit par Dieu, ou le tétragramme. Et c'est, on l'écrit en français parfois, YHVH. Et en hébreu, c'est Yudhe Vavhe. Et quand on permute les lettres de ce tétragramme, on obtient un mot splendide qui est Havaya et qui signifie très exactement l'être. Donc, quand on lit dans la Torah, Yahvé se mit en colère contre eux, et il envoya un fléau qui tua 10 000 hommes. Et si on entend qu'il y avait ces lettres, ça prend une signification et moins magique peut-être, mais plus claire. Ça veut dire ils furent en proie à une fureur qui déclencha un fléau mortel où perdirent la vie 10 000 hommes. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose. Il y eut quelque chose. Ce sont des occurrences du verbe être. Et ça donne, je trouve, une puissance narrative au texte et une puissance, je dirais, existentielle. Parce que quand on entend Yahvé ou Adonai leur a fait ceci, on a l'impression d'une force extérieur qui intervient comme ça, et on ne sait pas pourquoi ni comment, et que les humains subissent. Tandis que si on entend « l'être leur a fait ceci », ça veut dire « ils ont été tels que ça leur est arrivé », non seulement on comprend mieux, mais ça les implique. C'est un partage. Je dis que entre les humains et le divin, il y a un partage d'être. Alors, j'espère que là, l'expression « une lecture laïque » est relativement claire. Encore une fois, rien à voir avec la laïcité pour laquelle on se bat, à juste titre d'ailleurs, mais qui pour les uns signifie blanc, pour d'autres elle signifie rose, on ne sait pas exactement, et c'est pas du tout cet aspect, c'est un aspect, je dirais, ontologique. C'est une lecture de la Torah à même la fonction d'être, à même l'être qui se décline, comme par hasard, par l'être. L-E-T-R-E-S.
Daniel Siboni, alors pour revenir peut-être aux sources, il y a la création de l'univers, il y a la Torah pour les Juifs, il y a le peuple juif. Quelle est l'explication, je veux dire la nécessité pour, puisque en amont il y a, vous avez dit, ça émane de Dieu, il y a le premier être existant, la première entité, pas dominatrice, mais la plus importante, c'est Dieu. Il a créé l'univers. Alors dans cette optique de Dieu, pourquoi et comment a-t-il pensé nécessaire, pas utile, mais nécessaire de créer l'univers, et puis de créer la Torah, de créer le juif, pour un être complet, ces nécessités de création sont peut-être pas tellement miscibles avec cette idée de divin total complet.
Justement, il faut croire que le divin n'est pas total ni complet, et qu'on n'est pas dans une perspective où il y a une instance qui réfléchit et qui décide, tiens, ça serait bien de créer. Quand la Torah nous décrit la création par vagues successives de 6 jours, qui sont des jours un peu particuliers, et il faut croire que ce sont des jours outre-humains, surhumains, divin, des jours qui ont pu durer, je ne sais pas, peut-être même des millions d'années, parce que les plantes ne se sont pas créées en un jour, ni les animaux, etc. Donc la Torah nous décrit 6 vagues successives de création, et quand on lit « et Dieu vit que c'était bon », et ce fut, quand vous en prenez le point de vue de l'être, ça veut dire, il en fut ainsi, et c'est bon. Et c'est bon. Ça veut dire que l'émergence de cette création, des animaux, des plantes, puis de l'humain, et déjà de la lumière, tout ça a émergé, et le texte de la Torah dit, fait parler l'être et dit « c'est bon, c'est bien ». C'est-à-dire qu'il y a une approbation ontologique de ces émergences d'existence. Et quant à la Torah, de façon très intelligente, a commencé son texte par « Bereshit », qu'on traduit « au commencement », mais qui est aussi bien avec le commencement. Avec le commencement, le ciel et la terre se sont créés, et la terre était tohu bohu, ce qui veut dire que la terre préexistait. Il existait quelque chose. Donc, la Torah sans avoir des connaissances cosmologiques très précises, qui sont celles de notre époque, elle part d'un chaos originel et elle dit qu'à un certain moment, il y a eu un commencement et que c'est avec ce commencement que il y a une cascade d'émergence qu'elle a rythmée par des jours. Après quoi, après la fin du sixième jour, après l'arrêt du septième jour, elle marque une espèce de séparation. Après quoi commence l'histoire plus concrète des humains avec un temps relativement proche du nôtre. Mais il n'y a pas selon moi, quand on prend cette lecture laïque, il n'y a pas une intention qui dit voilà, et nous allons faire ceci et cela. Et il y a une description après coup de ce qui apparaît et qui est nommé, qui est bouclé, parce que le projet de cette écriture incroyable, c'est finalement de renommer le monde et les humains autrement, de faire entrer le monde dans un certain discours qui est ce discours de la Torah qui parle sur le monde et sur les humains. Et de ce point de vue-là, c'est assez réussi. C'est-à-dire que même si on part d'un chaos originel, eh bien, il s'est passé quelque chose à un certain moment. Et les scribes qui ont écrit ce livre sur des centaines d'années, j'invente une fiction où je dis qu'ils se sont réunis, c'est purement fictif, et ils ont dit, on va considérer qu'à partir d'un certain moment, ça commence à compter. Et ce moment, ils l'ont situé il y a 5800 et quelques années. Mmh. Et ils ont dit, voilà, à partir de ce moment-là, ça commence à compter. Ça ne veut pas dire que le monde tel que nous le connaissons s'est créé il y a 5800 et quelques années. Ça veut dire que le conte nouveau, comme le dit Mallarmé, le conte nouveau en formation, dans son beau poème Un coup de dé, il y a un conte nouveau qui s'inscrit, qu'ils ont situé à ce moment-là, avant lequel il y avait toutes ces vagues successives qui ont permis de structurer le cosmos, qui ont ouvert le cosmos à la parole qui le structure dans les premières pages de la Genèse. Après quoi, on va s'intéresser aux faits et gestes de l'humain, au fait que d'emblée, il y a des générations dégénérées et qui amènent un chaos tel qu'il y a une catastrophe. C'est une fiction, une catastrophe qui noie tout le monde, mais avec un résidu, c'est l'histoire de Noé. Et ça, c'est métaphorique. Ça veut dire que c'est les catastrophes dévastatrices, quand elles sont quand même proches d'une certaine symbolisation, eh bien, elles permettent à quelque chose d'être sauvé, qui permet de recommencer. Et ça, c'est presque une ritournelle du peuple juif. À chaque période, il a connu des effacements, des quasi-exterminations, avec toujours un reste. Et donc, vous voyez qu'il y a une histoire d'avant, il y a 5800 et quelques, une histoire chaotique qui est structurée, nommée, introduite dans le discours de la Torah, qui introduit ensuite des rythmes plus humain, c'est des histoires carrément, on entre assez vite dans une histoire de famille. La Genèse, c'est une histoire familiale. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui s'y passent. Il n'y a même pratiquement pas de miracle. Et le seul miracle que j'ai décelé pour ma part, c'est le fait qu'Abraham, il a un accès psychotique la nuit où il se met en tête que son Dieu lui demande d'aller égorger son, d'aller sacrifier son fils. Et le miracle, c'est qu'au moment où il va le faire, il y a un sursaut qui lui fait voir autre chose.
Daniel Sivoni, revenir donc sur ce livre, la Torah, une lecture laïque. La Torah est un texte religieux d'émanation divine, protégé par les lettres, vous connaissez mieux que moi la Massora, la Massorette. Donc toute, on n'a pas le droit d'ajouter une virgule, ni un point, ni un signe diacritique, ni changer une lettre. C'est un texte verrouillé, codé, et d'ailleurs, nombre d'exégètes essayent de lire entre les lignes, donc c'est un texte fermé. Comment peut-on en proposer une lecture laïque, émancipatrice par rapport à ce projet fermé divin? Je ne vais pas oser me permettre de dire c'est sacrilège, mais comment peut-on proposer une lecture laïque de la Torah? Est-ce que ce n'est pas inconsidéré?
Alors, la réponse va peut-être vous décevoir, mais ma lecture respecte intégralement le texte de la Torah. C'est comme si je disais une lecture de la Torah pour tout le monde, une lecture pour tous. Et ça n'entame en rien le fait que ce livre est sacralisé dans certaines mouvances, pas seulement juives d'ailleurs. Il est différemment sacralisé par les autres qui l'ont remanié à leur façon. Et donc, je respecte le texte tel qu'il est et je montre qu'il comporte une possibilité de lecture qui ne contredit même pas les lectures religieuses. Elle les laisse respectueusement là où elles sont et elle dit « voilà ». Ce qu'on peut aussi comprendre. Voilà ce qu'on peut entendre lorsque on entend que c'est l'être qui fonctionne, l'être qui est inclus dans le tétragramme. Et entre nous, ce tétragramme, il ne contient pas d'autres permutations intéressantes, quoi qu'en disent des érudits. Il contient Havaya, il contient Vaihi, Vaihi, ça veut dire il sera, il y aura. Et ça, ça correspond parfaitement au fait que Dieu dit à Moïse, qui lui demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dois dire, et il lui est répondu, Ehyé, je serai. Donc le je serai, Ehyé, est représenté dans le tétragramme, à côté de Havaya, l'être que moi j'entends faire résonner dans toute sa force, sinon les autres permutations ne sont pas très accessibles ou très signifiantes. Et donc, c'est peut-être sacrilège de rendre un livre accessible à des gens à qui il n'est pas adressé, mais après tout, les temps ont changé et les livres, à force d'être vendus et de circuler, s'adressent de toute façon à des gens, à quiconque. Et j'ai voulu aider ce quiconque à s'y retrouver et quiconque lit mon livre, et il aura affaire à quoi? il aura affaire à une ou deux lignes qui disent le thème de la paracha, parfois c'est trois ou quatre lignes. Il lit mon analyse, après quoi il peut entrer dans le texte avec une aisance, avec une curiosité, avec aussi un début de compréhension qui ne peut que le rassurer tout en le questionnant. Que demander de mieux ?
Oui, alors pour en revenir à cette lecture laïque que vous proposez pour la Torah, vous dites que ce sera une lecture non pas rationaliste, qui ramène tout à la raison, mais rationnelle, respectant la raison et laissant la place qu'il mérite au point d'irrationnel, que je nomme aussi point d'inspiration. C'est quoi ces points d'inspiration ? Je pense que c'est un petit peu penser des points d'amour. Lorsque on est inspiré par quelque chose, c'est un élan de notre être vers cette chose, une entrée en résonance avec. Mais l'inspiration n'est pas forcément une inspiration d'empathie, elle peut être aussi inspiration de rejet, de refus. Qu'entendez-vous, vous, par ces points d'inspiration ?
Bien sûr qu'elle peut être positive et négative. Mm-hmm. Quand Moïse les voit son peuple se livrer à une orgie idolâtre, il a une inspiration, c'est de les saccager, de les détruire, tout en les protégeant, puisqu'il demandera pardon pour eux. Et lorsque il fait les différents miracles, je montre dans mon livre que ce sont des choses tout à fait naturelles. En cela, je ne contredis pas Spinoza, mais ce que Spinoza n'a pas vu, c'est que le miracle, c'est d'être présent au bon moment, au bon endroit, quand on a besoin de ce phénomène naturel. Et donc, ces points d'inspiration, ce sont, je les appelle aussi des points d'amour. Rappelez-vous, si vous connaissez d'autres de mes livres, dans De l'identité à l'existence, je dis que l'hypothèse fondatrice du peuple juif, c'est il existe des points d'amour pour nous, dans la vie. Je dis dans l'être, dans l'infini des possibles. Donc, c'est une hypothèse, voilà, qui s'accompagne d'une autre d'ailleurs, c'est qu'on va avoir de gros ennuis pour ça. Donc, les points d'inspiration, on peut les appeler des points d'amour, mais pas l'amour comme vous l'entendez, l'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un avec de l'empathie. C'est l'amour en tant que, c'est une espèce d'acquiescement d'être, qui est énorme et qui permet de transgresser les perceptions ordinaires, les règles habituelles, etc., pour trouver, pour donner vie à quelque chose de nouveau. Et j'ai pris soin, à la fin de mon livre, dans un petit chapitre que j'ai appelé « Rebond », d'analyser, de décrire la dynamique de ces points d'inspiration, et j'ai ainsi étalé une espèce de trame que j'appelle une figure du divin et qui permet d'y inclure, je ne sais pas, un grand chercheur qui a fait une trouvaille magnifique. Ça veut dire qu'il a été en relation avec le possible et avec le cosmos, d'un amour tel que quelque chose de nouveau qu'il a engendré dans cette rencontre, quelque chose de nouveau qui en plus a produit des effets bénéfiques pour les humains. Voilà, et dans le cadre de cette inspiration qu'il a eue, un autre développement peut surgir et donner une autre inspiration. Et je dégage ainsi des lignes infinies d'inspiration, toutes différentes, dans des registres différents, qui peuvent être la science, la musique, la pensée, etc., et d'autres choses que nous ne soupçonnons pas. Mmh. Voilà l'idée de ces points d'inspiration et pourquoi ils ont évidemment quelque chose d'irrationnel. Pourquoi c'est cet homme qui a soudain, au-delà de tous les raisonnements qu'il a fait, qui se révèlent inutiles, il a soudain cet éclair magnifique qui lui fait voir des choses jusque-là inaperçues.
Mmh. Daniel Cibony, je vous remercie beaucoup. Ce livre est absolument passionnant. La Torah, une lecture laïque. Dire que c'est aussi une lecture innombrable à travers tous les chapitres. Et c'est, je rappelle que vous êtes psychanalyste, philosophe, auteur aux éditions Odile Jacob, notamment de lecture biblique, de l'identité à l'existence. Et puis, plus récemment, donc, le grand malentendu Islam-Israël-Occident, et que nous avons parlé aujourd'hui de la Torah, une lecture laïque. Merci beaucoup, Daniel Cibony, à une autre fois.
Merci, merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. Ah.